sexploité, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les mal terribles. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions et de vous retirer sur le côté gentiment. Monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Grégoire. Chaque semaine sur l'école des Garrigues, Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Cette émission étant réalisée sur Reims, sur Radio Primitive. Grégoire, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, eh bien, ce soir, vous doutez bien qu'on va vous parler de l'unité nationale et tout ce qui s'est passé dans la semaine. Avant, déjà, on vous avait dit la semaine dernière, à la fin de l'émission, qu'on allait parler de la Belgique. C'est reporté la semaine prochaine avec quelqu'un qu'on aura au téléphone, quelqu'un qui est militant FGTB, des jeunes, je crois, responsables
de jeunesse. Oui, on n'a pas bousculé le programme à cause de l'actualité.
Ça n'a pas été possible au dernier moment.
Techniquement, et puis effectivement, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de choses à dire sur ça. Mais alors, on va peut-être commencer
par parler de la manif kurde, parce que aussi la semaine dernière, on vous avait parlé de la manif kurde qui avait lieu à Paris, donc samedi.
Et c'est ça, et qui est finalement en fait pas en décalage complet avec l'actualité immédiate, puisque en fait il y avait une manifestation européenne à Paris samedi, on vous l'avait expliqué, afin d'exiger la vérité et la justice selon les termes employés, mais en tous les cas la lumière sur l'assassinat de trois militantes kurdes en 2012 maintenant.
C'était 2013.
Oui, c'est ça fait deux ans, j'étais en train de calculer dans ma tête et j'ai pas pensé qu'on était en 2015. Assassinat qui avait eu lieu dans les circonstances qu'on vous avait rappelées, avec des gros problèmes, puisque le juge qui est chargé de l'enquête a adressé des commissions rogatoires à la justice turque. Ces commissions rogatoires ne sont pas honorées par la justice turque. Qu'il n'y a aucune intervention, évidemment, de la part de l'État français pour pouvoir faire avancer le dossier. Bon, en fait, on est clairement dans un assassinat politique, là-dedans, il n'est pas ici question d'affirmer que la France a une connaissance pleine et entière de ce qui s'est passé. On ne peut que le supposer, mais on sait combien ces assassinats politiques dans l'histoire contemporaine ont eu lieu, que l'État français soit mis ou pas devant le fait accompli, qu'il y ait une complicité de fait ou une complicité entière. On a rappelé ici les assassinats de gens comme Dulcie Septemberr, comme Henri Curiel, comme dans une moindre mesure Pierre Goldman, ou encore les militants basques qui étaient assassinés par les groupes antiterroristes de Libération, SIC. Je cite, évidemment, qui était un espèce de mélange de barbouze, de complicité des services français, en tous les cas de, comment dire ça, faire mâche de yeux, si je peux employer ce néologisme. Enfin bon, disons que ce qui est évident, c'est que les Kurdes, et en l'occurrence cette partie du mouvement kurde, et le lieu où se trouvaient ces trois femmes étaient sur surveillance permanente des renseignements généraux, de la DCRI, même maintenant qu'on dit, on a les vieilles habitudes, que donc il n'a pas pu se passer quelque chose sans qu'il y ait eu des soupçons, quoique maintenant c'est vrai qu'en y réfléchissant, avec vu la nullité des services des renseignements, on peut s'attendre,
on peut s'attendre à tout,
mais bon, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que sur l'enquête, il y a des gros boulets qui sont traînés.
On sait qui a fait le coup, matériellement.
On connaît l'individu qui a fait le coup, qui est un individu qui a, alors semble-t-il, en tous les cas, il est présenté comme quelqu'un ayant souffrant de problèmes psychiatriques, qui serait également atteint d'une tumeur au cerveau avec une espérance de vie très limitée, qui aurait eu un parcours à la fois chez les loups gris, mais qui ensuite aurait pris connaissance de ses ascendances kurdes et aurait tenté de rentrer dans le mouvement kurde. Donc voilà, ce que demandait cette manifestation, c'était à la fois dans l'idée de ne pas maintenir cette affaire dans l'ombre, et puis d'essayer d'engager un rapport de force avec l'État français pour pouvoir avancer à ça. Alors c'était une manif européenne, donc c'était une manif de Kurdes, donc il y avait les traditionnelles, on va dire, caractéristiques de ces manifestations, beaucoup de jeunes, beaucoup de familles, beaucoup d'Allemands, énormément d'Allemands,
normal,
puisque c'est pays d'immigration principal, pour les Kurdes et les Turcs, beaucoup de gens donc qui étaient venus en famille, beaucoup de drapeaux, des slogans, hein, des manifestations qui sont dynamiques, malgré le fait que le parcours ait été amputé d'un gros tiers. Il y a pu avoir un défilé, puisque normalement cette manifestation devait se terminer sur la place de la République avec des prises de parole, et là cette manifestation donc qui partait de la gare du Nord s'est terminée sur la place de Stalingrad, donc vraiment un très très court trajet, mais il y a quand même eu des prises de parole, et il y a eu cette volonté de mettre en avant que d'une part il y avait une recherche et de la justice et de la vérité, et qu'il y avait une complicité objective de l'État français, et évidemment des questions à poser à l'État turc, et puis il y avait aussi une remise en contexte, à savoir qu'est-ce qui se passait dans le Rojava et qu'est-ce qui se passait à Kobané, et dans l'état des choses que nous vivions, il était vraiment intéressant de voir que des gens qui sont en première ligne contre ce qu'on nous présente, voilà, ce qu'on nous présente être la menace du siècle, en tous les cas, ce qui semble incarner, je vais mettre plein de guillemets là-dedans, mais ce qui est désigné comme la barbarie, et bien il se retrouve tout seul à la fois devant, il se retrouve tout seul dans la rue contre ça, puisque si on ne peut que malheureusement regretter l'absence de cortège réel libertaire en raison de causes, on va dire, extérieures au collectif de solidarité parisien, on ne peut évidemment qu'être désolé devant l'absence de l'extrême gauche et de la gauche française. Est surprenant, mais en tous les cas de l'extrême gauche, en tous les cas de gens qui se positionnent sur une
critique, ou même de gens qui sont pas kurdes et qui
ouais, c'est ça,
justement, ouais, dans un contexte où on avait entendu parler, les gens avaient entendu parler de ce qu'était l'État islamique et Daesh, puisque l'un des barbares, des tueurs là, et s'en réclamait. Tiens bon. Alors, ce qui est étonnant, moi, j'étais pas à cette manif. J'ai vu, par contre, des photos qui sont passées, un film qui est passé sur YouTube. On voyait qu'il y avait effectivement du monde, hein. Je pense que c'était plusieurs dizaines de milliers de personnes, non?
Oui, c'est ça, oui. De mon point de vue, il y avait au moins 30 000 personnes.
Voilà. Ça n'a pas du tout été, relayé par la presse d'une manière ou d'une autre, hein. J'ai essayé d'avoir un compte-rendu, etc. Que dalle.
À tel point que dans le climat de tension qui régnait à Paris à ce moment-là, les Parisiens semblaient complètement flippés de ces gens basanés qui étaient en train de manifester avec des drapeaux. Ils se demandaient ce qui se passait. Évidemment, ils s'intéressaient pas vraiment à ce que c'était, mais ils étaient en train de se poser vraiment beaucoup de questions. Il y avait une lourdeur avec la présence des flics. Enfin, c'était complètement insupportable. Heureusement qu'il y avait une bonne ambiance contrebalancer ça, quoi. Mais je crois que sur la présence ou l'absence de l'extrême gauche, c'est que il y a clairement un fil à tirer et une compréhension à mettre par rapport à la critique de l'impérialisme, à l'anti-impérialisme d'une manière générale, et puis à l'anti-impérialisme, à l'impérialisme français d'une manière particulière. Quand on regarde la solidarité avec les mouvements, on va dire anticolonialistes ou tiers-mondistes, avec une objection positive là-dedans, on voit que la gauche a toujours supporté ces mouvements que parce que elle avait quelque chose à défendre ou que parce qu'elle pouvait s'en servir et relayer quelque chose. L'exemple qu'il y a à prendre ici, c'est le Parti communiste avec Nelson Mandela et la lutte contre l'apartheid. C'est seulement quand le Parti communiste a décidé par rapport à un alignement avec l'URSS a mis le paquet sur Mandela et sur le boycott, qu'il y a eu cette thématique-là qui ont été prises en charge. Pour ceux qui se rappellent encore, les petits autocollants Free Mandela.
Il faut quand même dire que le PC ne représente plus ce qu'il a été,
tout à fait.
Même à l'époque de l'Afrique du Sud. Hein, c'est-à-dire, ça a quand même complètement maigré au niveau des militants.
Ah oui, tout à fait.
Que le PC n'était pas dans la... À ma connaissance, ce n'était pas dans la rue le lendemain. À ma connaissance, en tant que PC, hein. En tant que PC, je parle. Hein.
Il y avait des satellites, il y avait encore l'association France-Kurdistan, qui est un petit peu le dernier truc qui puisse exister. Et puis, de toute façon, on sait très bien comment la gauche française a toujours été patriote, chauvine, extrêmement... peu propice à critiquer ces impérialismes et à poser une réflexion là-dessus. Hein. C'est normal, hein, quand vous avez un État qui opprime des minorités linguistiques et culturelles comme les Basques, les Corses et les Bretons. J'ai pas dit les Alsaciens. c'est assez difficile de faire une critique de puissances qui ont la même politique ou des politiques, en tous les cas, qui vont dans le même sens, quoi. Et puis de toute façon, la France étant jacobine par essence, la République française étant jacobine par essence, ça paraît assez difficile et délicat d'entamer une réflexion sur ces thématiques-là.
J'ai une question à te poser. Est-ce que tu es au courant un peu de ce qui se passe à Kobané?
Non.
Au niveau de la résistance?
Non. Pas dans le détail. Je sais que ça continue toujours. On avait demandé aux camarades de nous faire un point, mais évidemment la barrière de la langue est assez difficile. Je sais qu'il y a des pertes assez importantes du côté des mercenaires de Daesh journalières, et que il y a des points qui sont gagnés à nouveau par les résistantes kobanais, les résistantes kobanais, pardon. Et évidemment, là-dessus, il y a quand même un problème principal qui est l'intervention de la coalition arabo-occidentale, comme ils l'appellent, qui ne met pas le paquet, qui agit et qui intervient avec beaucoup de parcimonie, quoi. Alors évidemment, on va pas réclamer ici des bombardements de la Syrie et par la coalition arabo-occidentale, mais
il y a les Kurdes étaient contre d'ailleurs.
Il y a cette espèce de double triple jeu d'attendre. On a l'impression que dans cette coalition, il y a aussi beaucoup d'intérêts qui sont divergents et que ces intérêts, ils s'opposent aussi à des intérêts de gens, de membres qui sont pas forcément dans la coalition, et donc tout ça va de manière extrêmement parcimonieuse. Je vais être un.
Oui, je vais vous lire un truc. Je vais vous lire un truc. Je vais vous demander après qui a écrit ça. C'était écrit donc le 22 octobre 2014. Donc au début de la résistance de Kobané, ils sont donc en résistance depuis ce temps-là. Et je vous cite, hein, je ne suis pas kurde, je ne connais pas un mot de kurde, je serai incapable de citer un nom d'auteur kurde. La culture kurde m'est totalement étrangère. Ah si, il m'est arrivé de manger kurde. Passons. Aujourd'hui je suis kurde, je pense kurde, je parle kurde, je chante kurde, je pleure kurde. Les Kurdes assiégés en Syrie ne sont pas des Kurdes, ils sont l'humanité qui résiste aux ténèbres. Ils défendent leur vie, leur famille, leur pays, mais qu'ils le veuillent ou non, ils représentent le seul rempart contre l'avancée de l'État islamique. Ils nous défendent tous, non pas contre un islam fantasmé, qui ne représente pas les terroristes de Daesh, mais contre le gangstérisme le plus barbare. Comment la prétendue coalition contre les égorgeurs serait-elle crédible alors que pour des raisons différentes, beaucoup de ses membres ont partagé avec eux et partage encore pour certains, des intérêts stratégiques, politiques, économiques. Contre le cynisme à la mort, aujourd'hui, il y a le peuple kurde. Alors devinez qui c'est qui a écrit ça.
J'en sais rien. Un indice, peut-être.
Un indice.
François Hollande.
Non, non, non. Ah, non, attends, tu es con, quoi. T'as pas entendu le contenu. Non, c'est le directeur de Charlie Hebdo.
Charb, ah, d'accord.
Charb, donc, ça a été publié le 22 octobre dans le journal Charlie Hebdo, qui a été repris d'ailleurs par l'Humanité.
D'accord. Et eh ben, ce qui va nous permettre de faire une excellente transition.
Voilà, une excellente transition. Peut-être faire une pause musicale
tout
avant,
à fait.
Non ? Allez.
C'est la Java de l'inceste, illicite, celle qu'on danse avec sa nièce, la petite. On s'approche à petits pas, et on dit, suce tonton, c'est du nougat, garantie, sans sucre ni colorant, le zizi ne fait pas tomber les dents des petits.
Parce que c'est pour la jeunesse, la Java de tous les vices.
C'est la Java des homos sexuels qu'on lance avec un travelot en dentelle et on tient son partenaire à l'envers, le pénis dans son derrière, un grand ouvert, et on marche à petits pas en cadence, mettre sa verge dans le caca, porte chance.
Ah que c'est bon la Java de tous les vices.
C'est la Java du plaisir, solitaire, celle que l'on s'avant de dormir, le Saint-Père. On se masturbe à petits pas, des 10 doigts, on éjacule à 10 pas, devant soi. Faire danser la veuve poignée, formidable, ne m'a jamais sur les pieds de son mal.
Ah que c'est bon la chérisse, la Java de tous les vices.
Prenez pas en laissant votre sperme dans la butte, vous l'avez payé.
Parce que c'est pour la jeunesse, la Java de tous les vices.
C'est la Java des lesbiennes, en chaleur, qui torpille de l'abdomen, sans pudeur. Une main dans la culotte, farfouilleuse, elle se caresse la mode, bien juteuse, elle pousse des petits cris,
hi hi hi,
à chaque fois que je jouis, le trou pipi.
Ah que c'est pour la jeunesse, la Java de tous les vices.
C'est la Java des amants, masochistes, qui se fouette jusqu'au sang et persiste jusqu'à temps que la douleur intensive se transforme en grand bonheur. Oh surprise, on arrête de danser, attristé, lorsque la corde du fouet est usée.
Ah que c'est pour la Java de tous les vices.
C'est la Java des bipèdes, zoophiles, qui aime les palmipèdes, c'est facile. Par les ailes chauffe le canard.
Coin, coin, coin.
Dans le croupion rentre leur dard.
Soin, soin, soin.
Les petites pattes de la bête, en mesure, gigotent contre les roupettes, au luxure.
Ah que c'est bon la chavisse, la java de tous les vices. Ah que c'est bon la chavisse, la java de tous les vices.
Oui, c'était quoi cette chanson?
Alors ça, c'était les chansons du professeur Choron. C'était lui qui avait participé aussi et qui faisait partie de cette histoire
d'Arakiri au départ.
Et puis de ce qui va donner ensuite Charlie Hebdo, le professeur Choron d'ailleurs, qui le samedi on commémorait les 10 ans de sa disparition. Ouais. Effectivement, et professeur Choron, qui certainement, s'il avait été encore vivant, un peu comme Cavana d'ailleurs, et certainement tout autant que GB, aurait eu certainement beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé ce week-end.
Alors, c'est une unité nationale, oui, justement, comme par rapport à ça, c'est incroyable quand même. Il y a un truc qui m'a vraiment choqué, c'est les cloches qui sonnent. Quand tu sais que un mec comme Cabu, par exemple, dessinateur, avait conchié toujours l'Église catholique. Enfin, ça, on oublie de le dire, mais Charlie Hebdo s'attaquait à toutes les religions et surtout, d'ailleurs, à l'Église catholique. Quand tu sais aussi que Cabu était antimilitariste, qui conchiait complètement la Marseillaise, hein, faut dire, il a fait des dessins là-dessus qu'on peut trouver sur Internet. Mais qui date de certains, sont relativement récents, de 2003, hein, où on voit quatre beaufs qui chantent la Marseillaise, et tu as un jeune qui passe et qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ce chant de barbare et xénophobe? Donc voilà, quoi, c'était ce qu'exprimait Cabu. Et quand on voit après, effectivement, ce qui s'est passé là dans la rue, il y a effectivement des gens qui sont venus là sans comprendre ce qu'était en fait l'histoire de Charlie Hebdo. Nous, on n'y reviendra pas là-dessus, c'est pas notre propos ce soir, hein, puisque certains ont dit que Charlie Hebdo avait changé, que Charlie Hebdo était devenu de plus en plus beauf, etc. Ça, je n'en sais rien, puisque ça fait longtemps qu'il me faisait plus rire, mais n'empêche que moi, ils avaient été, dans les années 70, la base de ma politisation. Des gens comme Cabu au niveau de l'antimilitarisme par exemple, hein, voilà, donc bon, ça m'intéresse pas, c'est pas ça qui est important finalement. Bon, c'est vrai que ce qui s'est passé là est quand même significatif de la société dans laquelle on est, quoi. C'est terrible, quoi, je trouve. Alors, en dehors de l'unité nationale dont on va parler tout à l'heure, donc peut-être on va pouvoir dire des choses, mais je pense aussi que moi, il y a des trucs qui m'étonnent beaucoup dans ce qu'on disant, les réponses qu'on va avoir par rapport à cette jeunesse française qui serait désœuvrée et qui pourrait être attirée par le djihad ou qui pourrait faire des attentats comme les deux frères Kaouchi, etc. Et on te sort des absurdités du style « c'est un problème d'éducation ». Ben oui, mon con, c'est un problème d'éducation, sauf que si tu donnes pas à bouffer aux gens, si tu donnes pas de travail aux gens, si tu donnes pas d'avenir aux gens, tu risques pas un jour de résoudre quelques problèmes que ce soit. C'est pas en leur inculquant la Marseillaise dès la maternelle, c'est pas en leur inculquant les valeurs de notre République, dont on pourrait dire beaucoup de choses, que ça va changer quelque chose dans la société. Je veux dire, ça me paraît évident. C'est assez étonnant que les gens puissent sortir des âneries comme ça. Surtout suite à la minute de silence qui n'a pas été respectée par un certain nombre de classes, de jeunes dans les départements comme le 93 par exemple. Ça s'explique très bien, je veux dire, pourquoi une minute de silence, ils comprennent pas, voilà, c'est, je crois qu'il y a des trucs quand même, il y a quand même une sacrée fracture là qui est une fracture sociale, qui est une fracture politique, une fracture sociale, économique, politique, de devenir. Bon, c'est sûr que ça s'explique, c'est un problème d'explication, c'est pas du tout un problème de compréhension, hein, c'est évident, mais c'est un problème d'explication, quoi.
Je crois qu'effectivement, comme tu as dit, c'est pas notre boulot de regarder. Bon, évidemment, il y a plein de choses à dire sur Charlie Hebdo, ce que c'était devenu, etc. Bon, c'est pas ce qui est important, c'est de comprendre le moment. Et c'est très difficile à le comprendre parce que d'une part, moi j'ai la sensation qu'il y a un truc irrationnel qui s'est passé dimanche, quoi. Que c'est, on est vraiment dans l'irrationalité la plus grande. Et en même temps, il s'est quand même passé quelque chose. C'est-à-dire que quand il y a 2 ou 3 millions de personnes dans la rue,
4 millions,
ouais, c'est qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est assez difficile quand même à l'analyser puisqu'on est que lundi, donc il faudra retirer ça. Moi, je vois 4 choses là-dedans qu'on pourrait tirer. Bon, d'une part, on est quand même en face de la mort de journalistes. Donc, il y a un réflexe corpo. La liberté d'expression est un délire, et la liberté de la presse est un truc vachement important chez tous les journaleux de merde, de services publics comme du privé. Donc, il y a une amplification énorme. C'est-à-dire que pour eux, ils ont une relégitimisation là-dessus. Ils en parlent énormément, donc il y a eu quand même tout un vecteur. On a parlé que de ça. Hein. Faut savoir que la semaine dernière, il y a 2000 personnes qui sont mortes au Niger. Voilà. Il y a une petite fille qui s'est fait sauter dans un marché où les cinglés de la secte Boko Haram ont rasé
au Nigeria.
Voilà, ont rasé des villages. Bon, en termes de barbarie, là on est dans l'équivalence. Il y a pas de doute. Et évidemment, on en a pas parlé. Le même jour, il y a eu aussi 30 morts au Yémen. Enfin bon, voilà, on sait très bien que si les morts ont la même peau, ils ont pas tous la même valeur, quoi. Et que 6 journalistes qui meurent vaudront toujours beaucoup plus que tous les charters, voilà, ou tous les bateaux de migrants. À noter également que à l'intérieur de ces morts, il y a cet homme là, cet agent d'entretien, nous on serait plutôt cet homme là, quoi, qui évidemment on a mis beaucoup de temps à savoir le nom. Dont malheureusement je l'ai pas noté, donc je m'en rappelle pas. Et évidemment, cet homme-là, personne a parlé pour lui, quoi. Il n'avait pas de compte Twitter, personne n'est venu chialer pour lui. On a pas du tout entendu sa famille, etc.
Et un truc que j'aurais à dire par rapport à la liberté d'expression que tu as évoqué tout à l'heure, il y a un truc significatif tout de même, puisque ça se dit pas, c'est que Charlie Hebdo était en train de crever, puisque il tirait qu'à 70 000 exemplaires. Ils étaient en déficit terrible et se posaient la question d'arrêter, tout simplement.
Hein. Mais d'une part, ils n'avaient pas les aides à la presse.
Ils n'avaient pas les aides à la presse, ça avait été supprimé. Et puis, au niveau des journaux satiriques, hein, ouais. Ça avait été une décision de l'État français, socialiste, etc., qui maintenant va investir dans Charlie Hebdo pour des raisons que l'on connaît, où il va y avoir demain, après-demain, 1 million d'exemplaires qui vont sortir, avec un fric énorme qui va arriver là, qui vont des milliers d'abonnements, c'est des trucs incroyables, alors que ce journal était en train de crever.
Il était en train de crever également parce qu'il avait perdu son lectorat historique.
Il avait perdu son lectorat historique, mais il y avait surtout le fait qu'il était aussi saboté par le pouvoir, qui de toute façon ne comptait pas aider les canards, qu'il considérait comme boiteux à cette époque-là.
Alors effectivement, quand il y a toute cette machine médiatique qui est mise en branle, qui suscite et qui génère de l'émotion, et qui rappelle qu'il y a cette marche républicaine le dimanche, qu'on fait un rendez-vous historique, on avait presque la pression d'assister à une convocation du peuple français dans la rue. C'est-à-dire que les gens qui n'allaient pas venir, ils allaient avoir intérêt à fourbir leurs arguments, parce qu'ils allaient devoir défendre le truc, n'est-ce pas, hein. C'était pratiquement des mauvais Français. Français, si je peux dire. Bah, parce que clair. Là, c'était la République qu'on défendait.
La France 3, par exemple, voulait choper sur Reims, et ils en ont réussi à interviewer des gens qui n'étaient pas. Donc, ils ont été dans la rue, qui était plus ou moins déserte à ce moment-là, et pour choper un couple et puis une autre personne qui n'était pas. Et pourquoi ? Ils se posaient la question, pourquoi ? Effectivement, c'était assez... Ils ne sont pas venus me voir, hein. Moi, je n'étais pas non plus, mais ils ne sont pas venus me voir. Mais bon, c'était quand même assez quelque part grave, quoi. Ouais. Mais d'un autre côté, faut pas non plus, dans cette unité nationale, dans ces drapeaux bleu, blanc, rouge, marseillaise, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des tas de gens, là, il s'est passé quelque chose tout de même. Il y a eu des tas de gens qui sont venus, qui n'étaient pas convoqués qui ne se sentaient pas convoqués par l'État, ni par les forces politiques qu'ils conchient la plupart du temps depuis un certain temps. Ils sont venus là parce que pour eux, il s'était passé quelque chose de très grave. Non ?
Tu veux dire quelque chose, non ? Non, non, non. Non, mais,
Moi, je pense pas que l'État français, que ce soit le Premier ministre ou que ce soit Hollande, ont convoqué les gens. Ils ont essayé de le faire, mais
la société médiatique,
c'est certainement pas eux qui sont à l'origine de la mobilisation de la population, des populations avec toute sa diversité. Et heureusement d'ailleurs, parce que justement, les gens ils sont exprimés. Selon ce qu'ils ressentaient, et puis c'est sûr que c'est, il y a un énorme malaise quand on voit défiler les pseudo-dictateurs.
Pas les pseudo-dictateurs, les dictateurs.
Ouais, non, je suis indulgent encore.
Tu vois, et,
oui, quand on les voit défiler en premier rang, mais moi je fais bien deux. À mon avis, deux choses distinctes entre les populations qui sont mobilisées avec leurs tripes et ces chefs d'État et leurs desseins politiciens, quoi.
Je suis pas d'accord avec toi dans le sens où je pense pas que t'as raison, c'est pas l'État français qui a convoqué son peuple dans la rue, mais il y avait quand même
une tentative.
Non, mais de la part de la société médiatique, c'est-à-dire que d'un côté t'avais le direct sur les prises d'otages et de l'autre t'avais cette ritournelle qui était là, qui disait que dimanche on allait dans la rue. Quand tu entendais les gens qui parlaient des, enfin, je veux dire, aujourd'hui être musulman en France, le poids sur les épaules, il est assez dur, quoi.
Oui, mais la première mobilisation, elle était spontanée. La toute première mobilisation, elle était spontanée. Personne n'a eu besoin de claironner de l'Élysée pour que les gens soient présents. Ouais. Donc ça, c'est en cela qu'il faut faire.
Mais ça, il y a eu un truc sur Reims qui m'a fait marrer. J'étais pas, mais on m'a raconté quand il y a eu la manifestation le jeudi midi, je crois. Le jeudi midi, des gens se sont retrouvés spontanément là, beaucoup de jeunes lycéens d'ailleurs. Il y avait des milliers de personnes place de la mairie. Et il y a eu le maire qui n'avait une mauvaise... comment dire, n'était pas bien... on n'entendait pas bien ce qu'il racontait. Et il y a eu des gens qui ont chanté la Marseillaise. Mais c'était minoritaire, d'après ce qu'on m'a dit. Et en plus, il y a des gens qui, en riposte, ont chanté l'International. Et oui, tu vois, donc donc ces gens-là étaient venus non pas pour des questions de nationalisme, ils étaient venus là parce qu'effectivement, faut sortir dehors quand il y a un truc aussi grave qui se passe.
Alors après, peut-être que si on essaie de trouver pareil des fils pour essayer de comprendre et analyser, évidemment, on peut pas passer à côté de la tentative ou en tous les cas la formidable organisation de la récupération. Par le gouvernement et par le pouvoir socialiste. Là, vraiment, transformer donc un hommage populaire en sommet de l'OTAN, c'est incroyable, quoi. On a des gens comme Rajoy qui essayent de rétablir l'avortement, Cameron, Idriss Déby. Il n'a pas réussi.
D'empêcher l'avortement.
Oh, le lapsus. Et voilà, enfin c'est incroyable, Recep Tayyip Erdogan, enfin où on est là, où c'était tellement énorme que ça me paraissait une
c'est pas Erdogan
blague.
Qui était là. Hein.
Il y a Erdogan qui était là.
T'es sûr de ça?
Oui. Ouais, tout à fait. Ah non, mais ils étaient tous là. Hein. Il y avait même Idriss Déby qui était là, Ali Bongo. Enfin, tu pouvais vraiment faire une brochette pour le coup avec une banderole. Quelle était la banderole derrière laquelle ils défilaient? Il n'y avait pas de banderole. Et puis derrière, l'ensemble des partis politiques qui ont évidemment absolument pas attendu.
Ils ont marché 300 mètres.
Croisement, voilà, et pour, les responsables pour commencer ont marché 300 mètres. À délibérer ce que tu disais, où on a la volonté de nous faire un Patriot Act à la française, etc., etc. Enfin bon, c'est terrible, quoi. Voilà, je pense que là-dessus, il y avait effectivement un truc qui était casse-gueule de la part du pouvoir et que effectivement, il a très très bien joué, même si. De l'extérieur, ça pouvait apparaître comme vachement, vachement grossier. Mais
on verra ce qui va se passer. Peut-être que on peut faire l'analyse. Peut-être que le pouvoir socialiste va remonter au niveau de le pourcentage de gens peut-être que le Front National va baisser, parce que bon, là, ils ont vraiment mal joué, c'est moi qu'on puisse dire. Ils continuent d'ailleurs, ils n'ont pas bien compris ce qui se passait. Bon, je n'en sais rien, mais on s'en fout un peu quand même, parce que c'est la politique aérie, ça. Puis on le sait que de toute façon, ce n'est que ça. C'est normal que le PS et Hollande essayent de redorer son blason grâce à ça. Enfin, c'est évident, c'est dans la logique de la politique aérie. Tu vois, ça peut pas en être autrement, je pense. C'est le fameux, la droite essaye de trouver aussi son coin. Il y a Sarkozy qui s'est agité pour se retrouver au premier rang. Il avait bien eu du mal, etc. Il y a des trucs tragico-comiques hein, qui se sont passés lors de cette manifestation. Mais moi, si tu veux, ce que j'en dirais, c'est qu'il y a eu des choses plus peut-être inquiétantes. C'est le fait que ça a redoré le blason de la police. Qui était bien terni depuis un certain temps avec ce qui s'était passé pour Rémi Fraisse, avec ce qui se passe dans les quartiers d'ailleurs et ce qui continue de se passer. Et là-dessus, il y a eu des médias, au niveau des médias, un truc qui a été vraiment bien assaisonné au niveau de toutes les, par exemple BFM Télé, mais c'est pas forcément une référence, mais t'as eu un bon truc vraiment pour redorer le blason terni de la police française et de la gendarmerie et demain de l'armée, puisque vous, je sais pas si vous le savez, mais à partir de demain, 10 000 militaires vont être déployés ce qui fait 30 000 militaires au total, puisqu'il faut rouler tout ça, il y a des roulements de 3-8, hein. 30 000 militaires vont être mobilisés en France. Alors, il y a quelqu'un qui a eu l'intelligence de comparer avec nos militaires qui étaient en action en Irak, au Mali, etc. Bon, et ça s'équilibre, là. Voilà.
C'est un peu plus important, même, je crois. Le déploiement intérieur est plus important que sur l'Irak, le Mali.
Ce qu'on oublie de dire, c'est que la France est en guerre, comme les États-Unis sont en guerre. Nous, les Français, en général, on n'en a pas conscience tous les jours. Bon, alors, on en parle dans nos émissions, etc. Mais la France est en guerre. La France est en guerre en Irak. La France est en guerre au Mali. La France est en guerre dans beaucoup de pays. Bon, elle n'est pas encore en Syrie, mais bientôt. Donc, ce qui fait que, effectivement, quand on a un pays comme ça qui est en guerre, c'est pas sur son territoire. Et quand la guerre se transpose, comme le 11 septembre 2001, là, c'est transposé aux États-Unis, là, c'est le même phénomène. C'est-à-dire que, hop, la guerre arrive sur ton territoire aussi. Bon, sauf que j'ai eu l'impression tout de même que, bon, c'est une explication que je donne, hein, c'est pas une autre chose. N'empêche que, j'ai trouvé que quelque part, les Français avaient majoritairement 4 millions dans la rue, c'est pas rien, avaient réagi d'une manière qui n'est pas trop conne, puisque, comme a dit Jeannot, il y a quand même beaucoup de gens qui sont sortis dans la rue sans attendre qui que ce soit, puisqu'il y a eu des milliers de personnes qui étaient dans la rue dès le jeudi midi. Bon, alors, il y a eu des trucs comiques du style on fait sonner les cloches des églises. Bon, pour des gens comme Cabu, c'est drôle, quoi. Mais n'empêche que je me trompe peut-être, je fais peut-être trop d'illusions. N'empêche que quoi.
Non, mais je pense qu'il faut distinguer l'hommage qui a été fait par les institutions, qu'elles soient religieuses, étatiques et tout ça, ou médiatiques, et la réaction des gens qui sont descendus dans la rue. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont mis plein de choses à l'intérieur de ça qui peut-être dépassaient et qui dépassaient certainement Charlie Hebdo et qu'il y avait à la fois une envie de réagir par rapport à ce qu'ils avaient perçu comme étant quelque chose de tragique et d'horreur. Certainement, évidemment, qu'il y a des gens qui n'ont jamais lu Charlie Hebdo. Mais je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est à la fois... Enfin, moi, je peux parler de ce que j'ai vu, c'est-à-dire Reims et le Rassemblement à République le mercredi soir. Et puis de ce que j'ai pu voir par-ci par-là à la téloche, il y avait un truc qui était quand même assez dérangeant. C'était ce refuge derrière ces trois petits mots là, cette affichette
je
suis Charlie qui était collé partout. Ça allait des banques aux marchands, aux agences immobilières, en passant par le coiffeur et même les flics qu'on avait collés sur les c'est incroyable quoi. Et il y avait, je crois, et ça je fais pièce à mon camarade qui est à côté qui me l'avait fait remarquer, il y a une envie de se retrouver ensemble, il y a une envie de, j'arriverais pas à ce que même dire de communion, quoi. Il y a une envie d'être ensemble. Les gens ont besoin de se rassembler sur des choses qui sont gratuites.
Alors, ça va se vendre bientôt. Les t-shirts.
Ah oui, grâce.
Alors, il y a le dessinateur qui a Luce qui a répondu justement, qui a donné un interview très intéressant où il dit à un moment donné que lui, il s'y retrouve pas dans ce symbole qui a été fait du journal. Il dit que c'est ils se sentent complètement dépassés, quoi, par un symbole du journal de Charlie Hebdo. Comment expliquer,
oui, parce qu'il dit,
qui dépasse complètement la réalité, alors que la réalité c'était que en fait Charlie Hebdo était à l'abandon quasiment, enfin bien je veux sûr. Dire tu l'as dit un petit peu, Denis, au niveau des abonnés, tout ça c'était en difficulté, c'est un journal qui était en difficulté. Bon, il y a quand même une équipe qui continuait à maintenir ses objectifs, tout ça. Mais en termes de survie du journal, c'était en difficulté. Et ce symbole qui a été donné à la suite de cet attentat les dépasse complètement. Et Luce était le journaliste dessinateur Luce était très mal à l'aise par rapport à ça. Il expliquait comme ça en disant que ça n'avait pas lieu d'être, quoi. C'était trop, quoi.
Il disait que lui, en tant que journaliste dessinateur de Charlie Hebdo, il disait que lui se battait contre tous les symboles.
Voilà.
Et
oui.
Que le fait de devenir soi-même un symbole lui posait des graves problèmes. Et il disait aussi autre chose qui me paraît vachement important, c'est qu'il n'y a pas d'identité, Charlie Hebdo. Tu as des tas de gens qui sont là-dedans, qui ont été là-dedans historiquement, d'ailleurs on le sait, pour ceux qui, dès la naissance, qui politiquement n'étaient pas du tout en accord. Hein. Ils étaient, l'accord qu'il y avait entre eux, c'était d'en rire, de rire de tout. Et c'est tout. Tu as des gens comme Volinsky, par exemple, bon, c'est quelqu'un qui, politiquement, n'a rien à voir avec quelqu'un comme Cabu ou comme Charb.
De toute façon, il est clair que les membres fondateurs, on parlait de ça en introduction, J.B. Cavanna-Choron, s'il était encore présent, cette chose-là n'aurait pas pu se dérouler, quoi. Mais je crois que de toute façon, Luz, qu'est-ce qu'il dit ou pas, il n'est pas...
Cavanna aurait été là,
ouais,
c'est pareil.
Ça. Et il peut pas être, ni responsable ni lutter contre un état de la société dans laquelle il vit. Quand je dis que moi t'as raison, c'est un symbole, c'est vraiment ça, un symbole. C'est quoi, c'est quelque chose qui vise à remplacer autre chose, et ça a pas de matérialité. C'est-à-dire que quand tu descendais dans la rue dimanche, certes tu pouvais peut-être craindre qu'il y ait de nouveau des attentats ou ce genre de choses, peut-être, quoique vu le nombre de flics qu'il y avait, ça coûtait rien, tu vois, c'est comme se rendre hommage à Mandela. Ça coûte rien, ça coûte pas un engagement supplémentaire à toi-même. Et pour une fois, tu peux être avec quelqu'un qui est complètement différent de toi sans avoir à faire l'effort d'aller vers lui. Avec ce simple petit symbole, ces trois petits mots qui veulent pas dire grand-chose, en fait, on sait pas, ça veut dire quoi, Charlie, c'est quoi, c'est chier dans les églises de bénitier, ou c'est dégueuler sur les musulmans, c'est quoi, on sait pas ce que ça veut dire, quoi. Visiblement, ça peut être tout et n'importe quoi, puisque ça peut être à la fois chier dans les bénitiers et en même temps faire la bise à Hollande, quoi. Visiblement, les deux semblent compatibles. Et d'ailleurs, on le dit souvent ici. Tout ce qui est récupérable est récupéré, quoi. Ouais. Donc, quand même. Et je crois que ça, c'est à la fois quelque chose qui est un peu, réjouissant. En tous les cas, pas non plus dire que moi j'ai sauté de joie. En tous les cas, ça reste quand même, on regarde ça avec un œil. Moi j'ai regardé ça quand même avec un œil en disant c'est sain. C'est sain, il y a une réaction saine, mais en même temps, si je regarde par l'autre côté, cette marche républicaine, comme ils l'ont appelée, ces rassemblements dits républicains, ils sont à la fois la démonstration de l'inanité de ce qu'est aujourd'hui la République, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien là-dedans.
Il y a une coquille vide. C'est vraiment complètement vide de sens, quoi. C'est du vent, c'est de l'esbroufe. Et je peux pas non plus ne pas remarquer que ça soit à Paris comme à Reims. Et ça, je crois qu'on le voit bien pour ceux qui ont pu lire le papier du Nouvel Observateur, qui s'appelle l'Obs maintenant, temps réel, pour ceux qui peuvent aller sur Internet. Je vous invite à voir les gens qui sont interviewés, hein, entre la styliste, la chargée de communication à la culture et l'architecte des PLG. Hein. Franchement, hein, je sais pas s'il faut le regretter ou pas, mais c'est un constat. Hein. Il y avait pas, c'était vraiment, comment dire, blanc. Pas âgé mais quand même pas très jeune, très peu de beurre et encore moins de black. C'est-à-dire qu'il est clair qu'il y a une partie de la société, alors ben déjà tous ceux qui bossent le dimanche, hein, d'ailleurs pour les gens qui bosseront le dimanche maintenant, terminer les marches républicaines, quoi, hein, ou alors faudra avoir un jour de congé exceptionnel de la part de l'État français, on verra bien. Mais il y avait vraiment peu de gens des quartiers, et je sais pas comment on peut l'analyser, mais il est clair qu'il y a une partie de la société française qui n'était pas là.
Pas là, c'est évident.
Il n'était pas là. Soit qui ne se sentait pas concerné.
Oui, qui ne se sentait pas concerné par le fait aussi, comme je l'ai dit au départ dans l'introduction, qu'est-ce qui explique tous ces phénomènes de djihadisme, etc. Ça puisse se prendre parmi certains jeunes, hein, qui sont français, qui sont nés ici. Pourquoi ça prend? C'est parce que tout simplement, eh bien, pour eux, il n'y a pas d'avenir. L'avenir, ils considèrent qu'il n'y a pas d'avenir pour eux. C'est complètement nihiliste. C'est complètement nihiliste dans le mauvais sens, dans le sens le plus terrible du terme. C'est d'ailleurs que bon, qu'est-ce qu'on propose à ces gens-là? Ah, des valeurs. Ils vont nous sortir des valeurs de la République. Ben non, les valeurs de la République, ça marche pas.
Ça
peut pas bouffer, hein, c'est clair. Bon, faut mieux traficoter le shit que d'essayer de trouver un emploi, hein. Parce que de toute façon, essayer de trouver un emploi, tu ne risques pas d'en trouver.
Bravo, les conseils. C'était les Grégor.
mais c'est la réalité.
non, mais je suis d'accord avec toi, c'est effectivement des pèlerins du néant, quoi. C'est ça, et le parcours, il est clair dans la radicalisation, puis surtout quand même. Quelle blague, quoi, après nous avoir saoulé avec les gens qui reviendraient de Syrie et qui seraient potentiellement dangereux, qu'il faudrait absolument piquer leur passeport et tout ça, voir que c'est des gens qui étaient surconnus, sursurveillés, qui sont nés en France, qui sont les produits de la crise, quoi. C'est des gens de l'aide sociale à l'enfance, quoi, qui ont été éclatés par le monde dans lequel ils ont vécu pendant 30 ans. Et de voir que ces gens-là étaient surconnus, putain, mais le renseignement français, la police française, totalement minable, quoi. Minable. Et encore là, on nous parle d'avoir des nouvelles lois et d'avoir des nouvelles dispositions. Mais attendez, vous êtes même pas capable d'arrêter les gens avec ce qu'il y a là. C'est pas la peine, quoi.
Mais le tropisme vers ces États, que ce soit l'Irak, la Syrie ou l'Afghanistan, c'est pas une blague. Il y a un tropisme qui existe.
Oui.
Donc effectivement, les gens sont peut-être en partie connus, mais si on parle de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes qui sont concernées par ça, il n'y a pas eu de solution. Et je dirais, il n'y a pas eu de solution pour les arrêter en cours de route, à l'aller, au retour, je ne sais pas. Et j'ajouterais même que du côté de la Turquie, je crois qu'il y avait un représentant de la Turquie qui était dans le cortège. Et la Turquie a révélé qu'il y avait des personnes proches se trouvaient en Syrie parce qu'ils avaient identifié. Mais à mon avis, ce doit pas être la seule personne que l'État syrien connaisse comme passant ses frontières. Hein, l'État turc. Je me suis trompé. L'État turc connaît. Et pourquoi il y a cette espèce de il y aurait pas derrière ça un espèce de chantage à l'Europe et à la France,
hein? Au niveau de la Turquie, je pense.
Ben évidemment. Quelle est la situation de la Turquie vis-à-vis de l'Europe? Moi, je Quelle est la situation de la Turquie vis-à-vis de l'Europe en ce qui concerne le passage, l'immigration clandestine et tout ça? C'est pas la première fois qu'il y a un espèce de chantage entre la Turquie et la Grèce sur le passage des frontières et tout ça. C'est le même jeu que faisait la Libye. Oui. C'est exactement le même jeu que faisait Kadhafi au niveau de la Libye. Donc, il faut mettre les choses à plat. Je veux dire, c'est évident qu'ils connaissent très bien les gens qui passent les frontières et qui vont là-bas mener la lutte armée pour Daesh ou autre. Hein. Bon, ça c'est un secret de
polichinelle,
quoi.
Bien sûr.
On va faire une pause.
Tu veux dire quelque chose? Ouais, moi, je suis venue pour parler aux optimistes, hein, puisqu'il y a des gens
merci, Nathalie.
Qui sont super contents qu'il y ait eu un tel rassemblement et un tel soulèvement contre l'obscurantisme et tout ça. On a beaucoup entendu ça. Je suis venue avec deux personnes qui ne sont pas du tout en France. Un jeune Mauritanien de 29 ans, si ça vous intéresse. Il a été condamné à mort le 24 décembre par son État mauritanien pour apostasie. Donc il est condamné à mort.
Apostasie, c'est le fait de renoncer à sa religion.
Apostasie, c'est renier sa religion. Et il avait un avocat. Son avocat s'est désisté parce qu'il a eu des menaces de mort. Donc, il a eu deux avocats commis d'office qui ont fait appel. Et donc, le 26 décembre, deux avocats ont fait appel de cette décision en espérant, atténuer la peine. C'est-à-dire, sans doute, faire en sorte qu'il ne soit pas exécuté, hein, mais peut-être gardé en prison toute sa vie. Et en fait, il avait simplement dit que la religion islamique défavorisait et continuait de mal considérer et de maltraiter une couche de la population dont il fait partie et qui sont là-bas les forgerons. Voilà ce qu'est l'apostasie pour ce gars de 29 ans condamné à mort. Et en Arabie Saoudite, il y a un autre gars qui s'appelle Raef Badawi, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est un blogueur et qui, lui, est incarcéré depuis 2012 pour avoir monté un blog sur lequel les gens s'exprimaient sur les conditions politiques et sociales du pays. Il est emprisonné, il a été là condamné à 1000 coups de fouet et à 10 ans de prison. 1000 coups de fouet, dont les 50 premiers lui ont été donnés justement vendredi dernier, en sachant que 50 coups de fouet par semaine, il y a de fortes chances en fait qu'il n'en réchappe pas. Voilà. Donc si on a des choses à défendre sur l'obscurantisme, sur la liberté d'expression, on peut peut-être encore se focaliser sur des gens qui ne sont pas encore morts.
Une pause musicale, non ?
Allez, on vous dit.
Abderrahman Martin David. Et si le ciel était vide, tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus, rien qui résonne. Et si en plus n'y a personne, Abderrahman Martin David, et si le ciel était vide, il y a tant de torpeurs de musique en jolis cantiques, il y a tant de passion et
et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus, lignes qui résonnent. Et si en plus, il n'y a personne. Baruch Hashem, Inshallah. La 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 la. Hare Krishna, Alleluia. Abderrahman, Martin, David. Si le ciel était vide, si toutes ces balles traçantes, toutes ces armes de poing, toutes ces femmes ignorantes, ces enfants orphelins, si ces vies qui chavirent et ces yeux mouillés, ce n'était que le plaisir de zigouiller et l'angélus. Et si en plus, il n'y a personne, et l'angélus, il ne tire ça. Et si en plus, il n'y a personne. Et l'angélus.
Donc. Bon, il nous reste quelques minutes, on résoudra pas le problème dans ce temps-là, évidemment.
Si tu disais un truc intéressant. En plus,
qu'on continue la discussion pendant la musique.
Il y a eu des tas de trucs sur les réseaux sociaux, apparemment, mais aussi dans Internet, etc., sur le fait qu'il y a des jeunes qui ont refusé, des jeunes de quartier, qui ont refusé la visite des silences. Et ce qui est tout à fait logique.
En école primaire, hein.
Et en école primaire, donc, et aussi au lycée.
Ah oui.
Au lycée, dans le 93, ouais. Par exemple, c'était clair. Il y a des jeunes qui ont refusé la visite des silences. On dit, voilà. Alors après, t'as raison de dire, putain, au lieu de la visite des silences, il faudrait peut-être que justement, qu'il y ait du dialogue, quoi. Justement.
Absolument.
Ouais, tu disais.
On va peut-être pas parler de 70 personnes, quoi, parce qu'en fait c'est ça. Hein. Les élèves, ce qui était remonté comme contestation de minutes de silence jusqu'au ministère de l'Éducation nationale, c'est 70 personnes sur tout l'enseignement primaire et secondaire, sur toute la France. Est-ce que ça vaut le coup?
70 établissements.
70
établissements.
Ça change pas grand-chose.
Non, mais d'empêche qu'on n'a pas imposé le silence alors qu'il faudrait précisément apprendre à dialoguer et à expliquer les choses.
Ça, c'est un autre problème. C'est pas ça que je voulais relever. C'est le fait que je ne vais peut-être pas commencer par mettre les contestations ultra minoritaires en avant. C'est, à mon avis, le problème, il n'est pas là.
Ouais. Alors, il y a aussi un autre truc, on dit dans les réseaux sociaux, il y a une analyse qui a été faite, là, qui dit que finalement, il y a eu des propos pro-djihadistes ou pro... de prononcer, ça représenterait, d'après les estimations, à 0,3%.
Ouais,
les échanges qu'il y a eu depuis jeudi, hein, donc dans tous les échanges médiatiques qu'il y a eu, ça ne représente que 0,3% les gens qui n'ont pas de discours clair par rapport à condamner ce qui s'était passé.
D'où l'intérêt et l'importance de d'avoir des données, de prendre son temps pour réfléchir et de pas faire une émission foutraque comme celle-là, mais d'essayer de poser et tirer des choses pour qu'on soit plus au clair. En tous les cas, évidemment, vous doutez bien, et on pouvait pas ne pas le dire, que nous, l'unité nationale et l'union sacrée, c'est pas vraiment notre tasse de thé et c'est pas forcément cette chose-là qu'on va défendre. Et à mon avis, il va falloir très très attentif par rapport aux jours qui viennent.
Et aux nouvelles lois ou
antiterroristes, ouais.
Ou dispositions qui ont été prises. Il y a une petite métaphore, si on pourrait dire aux enfants. Le vampire.
il semble très fort, mais il ne peut pas se pousser des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. Nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions et vous retirez sur le côté gentiment. Monsieur, comme ça il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, c'est l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, là où l'émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site OC Libertaire et sur le blog Le Chat Noir 51.